Le fil conducteur de ce culte, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et évidemment, le message va s'axer sur Jésus-Christ. Vous vous souvenez, nous sommes en train de faire la série sur les cinq piliers de la réforme. Et dans les cinq piliers, nous avons déjà vu la Bible seule, sola scriptura, la foi seule. Ah, voilà un bon ou une bonne aide-mémoire, je ne sais pas comment on va dire ça. Sola fide, la foi seule. Nous avons vu la grâce seule, sola gratia. Et maintenant, nous allons voir Christ seul. En fait, si vous remarquez, ça va en crescendo. C'est comme si plus on prend les piliers, c'est comme si c'était un pilier qui était à la base, comme ça, et puis qui grandit. De sorte que la base du pilier est plus énorme que le début du pilier. Parce qu'il s'agit maintenant de Jésus-Christ. Quel est le point commun entre les trois premiers solas? Qu'est-ce qui fait lien entre les trois premiers solas, si je veux dire comme ça? C'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que Christ, c'est le cœur du christianisme. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu nous accompagnes dans cette méditation, dans cette réflexion, et que tu nous aides à te replacer, à te redonner ta place en réponse à ce combat qu'ont mené les réformateurs en leur temps. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Le lien entre les solas, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui fait, en fait, le cœur même du christianisme. Et dire que c'est Jésus qui est au cœur du christianisme, c'est sous-entendre que c'est une religion vivante. C'est pas quelque chose qui fonctionne comme une organisation, mais c'est quelque chose qui fonctionne comme un organisme. D'ailleurs, on parle du corps, le corps du Christ. C'est quelque chose de vivant, quelque chose donc qui a un temps, le passé, le présent, le futur, et on parle de l'éternité. Il ne s'agit donc pas seulement des principes et des valeurs, mais d'une personne qui est vivante éternellement. Jésus est le centre même de l'évangile, l'objet même de l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? La bonne nouvelle du salut. C'est un cadeau. Jésus est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est le cadeau de l'humanité. Un cadeau pour l'humanité. Dieu a fait un plan comme un architecte. Dieu s'est comporté comme un architecte qui a fait un plan, qui a fait comme un édifice. Et cet édifice avait une pierre, la pierre de l'angle. Et cette pierre de l'angle, c'est la pierre principale. Si on la retire, tout l'édifice tombe. Si on retire Christ du christianisme, il n'y a plus rien. Les solas n'ont plus de sens. Aucun sola n'a plus de sens. Si on retire Christ, notre salut n'a pas de sens. Il n'y a plus de salut pour nous. Christ est la pierre de l'angle, sans laquelle tout l'édifice s'écroule. Sola scriptura. Je vais vous montrer en quoi est-ce que Christ est vraiment le lien. Sola scriptura parle de l'écriture seule. Mais quand on parle d'écriture, de quoi parle l'écriture? Jean chapitre 5, verset 39. C'est Jésus qui le dit. Ah, mais toi, tu l'as. Ah oui, bon, je l'ai. Voilà, c'est bien. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. En réalité, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. La parole de Dieu est là pour parler de Jésus. C'est lui le point central de la parole de Dieu, des Écritures. Et voyez, Ils sondent les Écritures pour pouvoir avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle n'est pas possible sans Jésus. Sola Scriptura, les Écritures parlent de Jésus. Sola Fide, la foi, elle n'est pas autre chose que en rapport avec Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi. Dans d'autres textes, on dit l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Notre foi n'est pas basée sur nos sentiments, nos impressions, notre intelligence. Notre foi, elle est basée sur ce que a dit Jésus. Et basée sur le Christ, sur sa parole. N'est-ce pas? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Sola gratia, la grâce seule. Qui est l'auteur de la grâce? Qui est le moyen de la grâce pour Dieu? Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Il s'agit bien de Jésus. Et elle a habité parmi nous. Comment? Pleine de grâce. La source de la grâce, c'est en Jésus. Je voulais juste faire cette petite démonstration pour montrer que finalement, tout l'édifice tient parce que Jésus est le lien et le point commun. Affirmer donc Christ seul comme l'unique voie de salut est une vérité fondamentale, c'est une vérité centrale. Et il fallait que les réformateurs puissent l'exprimer et se battre pour cela. Christ, dans sa personne et dans son œuvre, est à la fois le sujet et l'objet de la Bible. Alors, je propose que nous fassions la même démarche qu'on avait fait aussi avec les autres solas. Nous agissons dans la structure suivante. Premier point, nous regardons d'abord qu'est-ce qui fait que, à cette époque de Luther, on a dû affirmer ce principe-là. Deuxième point, qu'en dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit? Troisième point, qu'est-ce qu'application on peut avoir pour nous aujourd'hui? Ce sont les trois points. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Luther pour que ce pilier, Christ seul, devienne la vérité, un pilier important, une colonne importante? Il faut savoir qu'à l'époque de Luther, le salut était assuré, certes, par Jésus. On disait que Christ était la voie du salut pour l'humanité, mais progressivement, l'Église a commencé à ajouter d'autres croyances en plus. D'abord, l'Église a commencé à penser que Marie, la mère de Jésus, pouvait assurer une intercession favorable auprès de son fils. De là, l'Église a développé un culte de Marie. On a commencé à rendre un culte à Marie en vue d'obtenir l'intercession de Jésus vers Dieu. Et c'est comme ça que tout le culte de Marie a commencé à se développer et est monté en puissance et a fait monter en puissance la personne de Marie comme une intermédiaire indispensable entre l'homme et Dieu, entre l'homme et Jésus son fils, et même entre l'homme et Dieu. Ensuite, le deuxième problème s'est présenté lorsque progressivement, on s'est mis alors aussi à utiliser aussi les saints comme des intermédiaires. Vous savez que dans l'Église catholique, quand tu perds quelque chose, tu peux prier saint, je ne sais pas très bien qui là-bas, et si tu as, je ne sais pas quel autre problème là-bas, tu peux invoquer tel autre saint, et puis si tu as ceci, tu peux appeler. Et je me souviens quand j'étais jeune, j'étais pendant une période de vacances chez un oncle, le frère de ma mère, et bon, je suis chez eux, je suis obligé d'aller à l'église catholique, j'étais déjà protestant, mais enfin bon, j'obéis, hein, les enfants, ils doivent obéir quand même, hein. Donc j'y étais, et puis on a été dans cette église, et c'était un grand séminaire qui s'appelait Saint, donc Kagwa c'est le nom du personnage, et en plein culte, ils se sont mis à chanter. Alors, ils ont, Saint Kagwa, il faisait une prière, quoi. Saint Kagwa, nous te demandons de faire monter cette prière auprès du Père, etc., etc. Et j'avais mes yeux écarquillés, j'ai dit, attends, Kagwa, c'est une personne, et elle doit demander que Dieu fasse quelque chose. Mais, je comprenais pas du tout, j'étais un peu perdu, et croyez-moi, j'ai dû aller vraiment, j'étais mal à l'aise et je pense que je me suis dit que je ne mettrais plus les pieds là-bas, même si on m'oblige. Dans l'Église catholique, la tradition veut que les saints, ça soit des gens qui ont vécu leur vie et qui sont morts et qui ont fait des choses extraordinaires. Et une fois qu'ils sont morts, ils sont reconnus par l'ensemble de la communauté. Il y a toute une commission spéciale au Vatican qui étudie, qui peut être déclaré saint et qui ne peut pas. Il y a toute une commission de canonisation. Alors il y a toute une cérémonie. On vous canonise, on reconnaît que voilà Saint Gaston. Ah, ça serait bien. Saint Gaston. Et alors on commence à prier Saint Gaston. J'ai cherché, mais il n'y a pas de Saint Gaston, hein. J'ai un autre prénom qui correspond avec mon patron de saint, mais c'est pas ça. C'est pas celui-là. Donc, voilà, on canonise la personne et voilà. Maintenant, on dit que sa spécialité c'est ceci, c'est cela. C'est comme Saint Valentin. Hein? Le patron des amoureux, soi-disant. Enfin, bon, je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais bien compris d'ailleurs comment on a dévié à faire de lui ce patron des femmes. Bref. Donc, les saints chez les catholiques, c'est des personnes qui sont décédées et qui ont laissé un témoignage pour l'Église et que l'Église a reconnu la valeur. En général, pour être aussi canonisé comme saint, il faut que des miracles soient produits après ta mort sur la vie des gens. Par exemple, je ne sais pas moi, le saint chez qui on découvre les choses, là, je ne sais pas comment on l'appelle, celui chez qui on demande l'aide pour trouver les choses qu'on a perdues, là. Eh ben, comment il dit Saint quoi? C'est Antoine celui-là. Eh ben oui, il y en a. En plus, parfois, il y a des Antoine de Pape, Antoine de ceci, Antoine de cela, et des pâquerettes et machin, comme ça, enfin bref. Donc, eh bien, ce saint-là, il a fallu que quelqu'un ait perdu quelque chose, ait invoqué son nom, et qu'il y ait un miracle, il a retrouvé la chose, et il peut l'attester devant la commission en disant, vous voyez, j'avais mes clés qui étaient perdues dans le frigo parce que j'étais sous, mais enfin, c'est pas grave, je les retrouvais, et voilà. Enfin, j'exagère. Donc, ce sont des personnages qui laissent un témoignage. Mais nous savons, nous, les protestants, que les saints, ce n'est pas des morts. C'est nous. C'est tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Ils sont saints, c'est-à-dire ils sont mis à part. C'est ça le sens du mot saint, c'est être mis à part. L'Église, c'est l'assemblée des saints, c'est-à-dire de ceux qui ont été mis à part. À part de quoi? À part du monde. À part de quoi? À part de la vie naturelle des pécheurs, de la vie des hommes livrés à eux-mêmes. Nous sommes mis à part parce que nous ne vivons plus comme les gens du monde. Nous vivons comme les gens qui aiment Dieu, qui connaissent les règles de Dieu, qui connaissent les exigences, qui connaissent le standard de Dieu et qui respectent ce standard-là et vivent la vie conformément à ce que Dieu veut et attend de nous. C'est ça les saints. Ils sont mis à part. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme le gros de la population de notre monde. Mais les saints, ils sont vivants. C'est l'ensemble des chrétiens, des croyants, de tous ceux qui croient en Dieu à une époque déterminée. Nous, c'est ici et maintenant, nous sommes les saints. Peut-être que le deuxième point, que dit la Bible par rapport à tout ça? Et c'était ça la source de la réaction des réformateurs. Lorsqu'ils découvrent dans la Bible certaines vérités, ils ne peuvent pas se contenter de dire « Ok, nous sommes d'accord avec vous que Jésus est la voie du salut, mais qu'il y a des intermédiaires entre Jésus et les hommes. » Et peut-être même parfois ces intermédiaires dépassent Jésus pour aller direct vers le Père. Non, ça n'existe pas. Bibliquement parlant, non, ça n'existe pas. Que dit la Bible? Alors que Satan est en train de pousser Jésus à l'adorer, Matthieu chapitre 4, verset 10, que dit Jésus? Retire-toi. Jésus lui dit, retire-toi Satan, arrière de moi Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Sous-entendu, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Vous savez ce que ça veut dire ici, adorer? C'est la même chose que rendre un culte. Littéralement, ça veut dire, tu ne rendras pas d'autres cultes qu'à Dieu. Il n'y a que à Dieu qu'on rend le culte. Il n'y a qu'à Dieu qu'on donne la place de Dieu. Adorer, c'est donner à Dieu la place de Dieu. Il n'y a personne d'autre. C'est pour ça que moi, je vous conseille de ne pas dire « j'adore cet homme ». « J'adore ce pigeon ou cette voiture ou peu importe, j'adore ». Réservez en tant que chrétien le mot « adorer » à Dieu seul. C'est un peu comme dans votre vie personnelle. Vous avez quand même des gens que vous appelez avec un petit nom et vous n'entendez pas du tout que quelqu'un d'autre fasse ça. Aminou. Ah. Donc, on a des petits noms que c'est un nom réservé. Réservons le mot adoré uniquement à Dieu. Parce que c'est rendre un culte à Dieu. C'est donner seul à Dieu cette position-là. Donc ce texte montre très bien que, et ce n'est pas le seul texte, ce texte il est inspiré des 10 commandements. Vous vous souvenez? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras devant aucune autre divinité. Tu ne dessineras pas, tu ne feras pas une représentation de quoi que ce soit sur la terre devant lequel tu vas t'incliner, tu vas te prosterner, tu vas rendre culte. Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Un seul est digne donc d'adoration, c'est Dieu. Ça, c'est la première chose avec laquelle, justement, les réformateurs étaient en problème. Je ne peux pas rendre un culte à Marie, parce que Marie n'est pas Dieu. Je ne peux pas rendre un culte aux saints, parce que ce n'est pas des dieux, ce n'est pas Dieu. Je ne peux rendre un culte qu'à Dieu seul. Deuxième chose importante, Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Je ne peux pas prier Marie pour pouvoir atteindre Dieu, ni le saint. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Et un autre texte le confirme encore plus. Va dans le même sens. 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Un seul médiateur. Et ce médiateur, il n'y a pas de médiateur avant le médiateur. Hein. En politique, souvent on fait ça maintenant. Hein. En politique, il y a des accords, mais alors il y a des pré-accords et des sous-accords, de l'accord, de l'accord. Et en fait, vous allez voir que en bout de course, vous avez commencé avec une intention, mais à la fin, c'est le contraire qui est produit. Vous savez que c'est comme ça aussi avec les lois. Hein? Pourquoi est-ce que certaines lois ne passent pas dans notre pays? C'est parce que quand on décide de faire quelque chose et que les gens sont contre, ben ils créent des commissions qui étudient ceci, qui étudient cela, qui abordent ça, qui... Et en fait, au fait, c'était quoi qu'on voulait qu'on dessinait? On est perdu quelque part. Et puis le temps passe. Le temps passe. On passe à autre chose. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et il n'y a pas d'intermédiaire d'intermédiaire. Il y a un intermédiaire, il n'y a pas d'autre personne qui aide l'intermédiaire à être un intermédiaire. Ça n'a vraiment pas de sens. Est-ce que ça aurait vraiment servi à quelque chose que Dieu envoie son Fils pour que son Fils puisse avoir des intermédiaires, pour que les hommes atteignent son Fils? Vous trouvez ça, hein? Ésaïe chapitre 4 verset 14 dit, « Car la Vierge sera enceinte, elle enfantera un Fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire... » Alors, Dieu parmi nous, faut-il encore un intermédiaire? N'est-il pas assez proche de nous pour qu'on puisse s'adresser directement à lui? Ça, c'est le problème. Et ce n'est pas seulement Paul, ni Luc, à travers les actes des apôtres, qui affirment cette vérité-là. Jésus lui-même le dit. Jean chapitre 14. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a que la voie de Jésus-Christ. Et ça, c'est la réalité biblique. Donc le culte dédié à Marie est une erreur doctrinale. Erreur biblique. Mais est-ce que ça dévalorise, pour autant quand nous protestants on dit qu'on est contre le culte de Marie, et ça dévalorise Marie? Aucunement, pas du tout. Marie, comme l'apôtre Paul, comme Zacharie, comme Élisabeth, comme David, comme Moïse, comme Abraham, ce sont des personnages bibliques remarquables. Et Marie nous enseigne une chose que je trouve fabuleuse. Son attitude m'enseigne quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que ça m'enseigne? L'attitude de Marie m'enseigne que la liberté, ce n'est pas simplement le fait de me libérer des chaînes. La liberté, c'est aussi de choisir de me mettre complètement, de m'abandonner complètement entre les mains de celui qui m'a libéré, de mon sauveur. Parce que cette femme s'offre à elle-même, s'offre. Je suis votre servante, qu'il en soit fait selon votre volonté, quoi. Elle est dans un abandon total avec Dieu. Il dit, Seigneur, ma vie, c'est rien. Prends, fais ce que tu veux. Purée, pour nous les modernes, ce truc-là, ça ne marche pas, hein. Parce que nous, les modernes, on a un noyau dur, qui est la liberté. Et notre liberté est, touche pas. Tu peux toucher, oui. Que je renonce à quoi? Au sexe. Mais moi, j'aime bien ça. Pourquoi on m'interdit ça? De quel droit? Hein? Voilà. Alors, on va chercher dans la Bible des versets pour démontrer que, en fait, j'ai le droit. Alors on va un peu faire un truc bien présentable. Mais nous devons réfléchir, mes frères. Je suis avec vous dans la même réflexion. Nous, les gens d'aujourd'hui, les modernes, à cause des idées modernes de la liberté, nous avons une tendance à pécher contre Dieu. Parce qu'on a tendance à garder les choses encore pour nous. On n'abandonne pas, on ne capitule pas devant Dieu. Pas entièrement. Il y a toujours encore des choses qu'on garde pour nous. Et on se justifie en disant, mais oui, j'ai le droit. Ah oui, tout m'est permis. Mais tout n'édifie pas. Il y a moyen de tordre quand même la parole de Dieu, hein, parce que, enfin, elle est assez claire, mais enfin, bon, il y a moyen de dire que, voilà, tout m'est permis, mais ça, je peux quand même faire. Ou alors de se justifier de nos faiblesses. En disant, mais moi, je suis toujours faible, hein, vous savez, que Dieu me pardonne, mais ça, c'est quelque chose avec lequel, moi, je reste avec ça, voilà. C'est tout, c'est mon choix. Mais Marie est un bon enseignement pour nous. Son attitude, c'est l'attitude d'abandon total à l'égard de Dieu. Elle se laisse vraiment mener. Vous imaginez, jeune fille qui a peut-être quoi? Certains disent qu'elle avait 16 ans, d'autres disent qu'elle était plus jeune. Elle a un avenir devant elle. Il y a cet homme qui la courtise, un homme qui a l'air d'avoir un avenir prometteur. Elle aurait pu dire, Seigneur, quoi? Tu imagines toute la honte enceinte? Avant de nous être mariés, alors que la virginité était un point d'honneur pour les familles et pour les personnes. Et puis, risquer d'être abandonné par cet homme. Vous savez, le mariage, à l'époque de Jésus, pour une femme, c'était très très important. Aujourd'hui, les femmes sont indépendantes, elles peuvent franchement se passer des hommes. Certains hommes ont même peur de divorcer parce qu'ils se disent que si je divorce, c'est moi qu'on met dehors de la maison. La femme reste avec tout le reste. Hein. Il suffit qu'elle aille pleurer au procès là-bas en tribunal. C'est fini. Tout le monde, d'accord. Vous prenez tout. Monsieur, allez, dehors, débrouillez-vous. Enfin, c'est caricatural. Hein. C'est caricatural. C'est pas vrai tout ça. Enfin, c'est des drames. Hein. C'est des drames même pour les femmes aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que à cette époque-là, c'était une chose terrible de ne pas se marier. C'était un drame pour la famille, pour la fille, pour tout le monde. Et donc, vous imaginez cette Marie en train de dire « Je suis la servante de l'Éternel qui me soit fait selon ta volonté, sans discuter. » Quelle foi, quelle abnégation, quel abandon, quel sens d'abandon. C'est une matière à réflexion. Donc, Marie n'est pas un personnage que nous méprisons en tant que protestants. Mais nous voulons que Marie soit à la place de Marie et pas dans une place autre que celle où elle doit être. Parce que racontez quand même que Marie est montée au ciel, vivante, elle est montée au ciel, comme Jésus. Écoutez, il ne faut quand même pas exagérer, hein. Raconter que Marie est restée vierge toute sa vie, alors que la Bible dit le contraire, c'est quand même fort. Enfin bref. Aujourd'hui, troisième point, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, à quoi l'action des réformateurs nous renvoie aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut nous booster encore? Qu'est-ce qui peut être comme un enseignement, comme une exhortation? À quoi ça peut nous inviter? Tout ce combat, ça peut nous... Je propose trois choses. Je pense que ce combat pour installer Christ seul comme un des piliers de la réforme, un des piliers du salut, eh bien, ça devrait m'inviter à aussi chercher à connaître Jésus personnellement comme Seigneur et Sauveur. Parce que tout le monde ici a donné sa vie à Christ. Ne me répondez pas. C'est une question que vous devez répondre à l'intérieur de vous. Est-ce que tout le monde a donné sa vie à Christ? Sinon, c'est le moment. Si ces gens se sont battus pour le salut en Christ seul, c'est parce que ça valait la peine. S'il y a eu des gens qui étaient prêts à être brûlés vifs, à être dépossédés de leurs biens, à être humiliés, à être insultés, à perdre leur travail, à perdre leur position sociale, à perdre leur richesse, pour affirmer cette vérité à l'époque, c'est que ça vaut la peine encore aujourd'hui. Alors, s'il y a parmi vous ici des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, je vous invite à le faire. Venez me voir et on peut très bien en parler ensemble. Et deuxième chose, ces textes, ce combat m'invite à mettre Jésus au centre de ma vie. Peut-être que nous, les chrétiens, nés de nouveau, sauvés, nous sommes tellement dans une situation confortable, nous sommes tellement dans une zone de confort au niveau de la vie, que nous oublions de mettre Christ toujours au centre de notre vie. Voyez-vous ? N'oublions pas que Jésus est Seigneur. J'ai à capituler devant lui. Je n'ai pas à discuter avec lui. J'ai à obéir. J'ai à me soumettre. J'ai à faire ma vie de manière à lui plaire. Et s'il y a des combats dans ma vie qui font que je ne sais pas lui plaire, je dois me battre contre ces combats. Et avoir la victoire sur ces combats-là afin de me mettre en ordre avec lui. Beaucoup de gens se complaisent dans leur malheur. Ah, je suis comme ça. J'ai des combats, ben je m'en contente, c'est bien, très bien, je suis comme ça. Non ! Je veux mettre Jésus au centre de ma vie. Je veux que tout ce qui le glorifie dans ma vie, tout ce qui est conforme à sa volonté, eh bien, je le vive. Et si j'ai des combats, des difficultés, je dois pleurer, prier, me battre, chercher des solutions. Il faut que je sorte de là. Il faut que je sorte de là. Il ne faut pas que je reste dans mon combat. Mettre Jésus au centre de ma vie, ça veut dire capituler complètement au niveau de ma volonté, de ma liberté. Mes amis, il y a des gens qui vivent une double vie. La vie avec les frères en Christ, avec les autres, et puis la vie devant l'ordinateur ou autre chose. Mais ça veut dire aussi mettre Jésus au centre de sa vie, c'est aussi faire de Jésus celui en face, celui avec qui je suis en face, mon interlocuteur privilégié. C'est la question de l'intimité. Qui est votre intime? Est-ce que Jésus est-il votre ami intime de tous les jours? Ma femme, elle a une habitude. Moi, je fonctionne d'une manière très protocolaire. Pour moi, les choses doivent être mises dans des formes. Et j'ai un cadre dans lequel je fonctionne. Ma femme n'est pas comme ça. C'est le contraire. Donc, elle chamboule tout le temps mon programme. Mais j'ai appris à découvrir qu'il y avait de la qualité dans ce qu'elle faisait. Même si au début, ça, j'ai pesté pour ça, mais enfin, j'ai compris quand même qu'elle avait raison. Sur certains plans, il y a des urgences. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas garder les cadres. Il faut parfois bouger les cadres, justement, pour que les choses avancent. Une des choses que ma femme aime, c'est que quand elle prend une décision, peu importe laquelle, elle doit demander mon avis. Alors, vous savez, c'est vrai, s'il faut partir quelque part, s'il faut me demander mon horaire, ça va. Mais quand c'est quelque chose que je lui ai dit que tu peux faire, et qu'elle me téléphone encore pour donner mon avis, je vais dire que tu peux le faire. Voyez? Mais j'apprends quoi? J'apprends que ce qu'elle fait, ce n'est pas par rapport au choix. C'est la recherche de l'intimité. C'est la recherche du contact. C'est la recherche de ce sentiment que on l'a fait ensemble. Je ne l'ai pas fait toute seule. Vous comprenez? Je pense que ça, c'est un élément important pour pouvoir fonctionner avec Dieu. Faire mes choix avec Dieu. Même si c'est des choix les plus bêtes, mais les faire avec Dieu. Être avec Dieu quand je fais tout ce que je fais. Ça, c'est l'intimité. Mettre Dieu au centre. Mettre Jésus au centre. J'aime bien ce chant, Jésus soit le centre. J'aurais pu demander qu'on le chante, mais bon, il y a tellement des chansons sur Jésus que... Hein, mais Jésus soit le centre, c'est une chanson qui me fait réfléchir. Soit le voile dans mon navire pour me pousser. Soit... Toi, tu connais mieux la chanson. Tu connais les paroles? Non, ça te dit rien? Parce que tu aimes bien ce chant aussi, hein, n'est-ce pas? Ah, mais ça, c'est autre chose, ça, encore. Non, moi, je parle de Jésus soit mon... Bon, Richard va nous départir, comme on dit. Dernière chose, tu peux toujours pendant que tu... Dernière chose que à quoi ce texte peut m'inviter aussi, c'est de considérer Jésus comme le chef, pas seulement de ma vie, mais aussi de mon église. Mes amis, moi j'ai une plainte à formuler aujourd'hui à l'égard des chrétiens. Les chrétiens abandonnent systématiquement leurs églises. Les chrétiens aiment se promener. Il va là-bas, il fait ceci, il fait cela, et il revient à l'église, salut frère. Mais quand vous avez des responsabilités, et que vous partez, que vous revenez, vous récupérez vos responsabilités ou pas? Ça devient embêtant, hein? Parce que alors, les autres, là, eux, ils sont tous les jours en train de bosser. Allez, je prends l'exemple de la musique, comme il n'y a personne dans le cas, donc ça tombe très bien. On ne va pas me dire que je juge quelqu'un. Donc, on est dans la musique, on joue la musique, et puis l'autre, là, il vient une fois, et puis deux jours, deux fois, trois fois, il ne vient pas. On ne sait même pas pourquoi, d'ailleurs. Et puis, il revient, et puis, il rejoue. Vous voyez? La fidélité. Être fidèle à sa communauté. Être fidèle aux gens avec lesquels on est. Être fidèle avec sa vie spirituelle. Aujourd'hui, c'est un phénomène. On était en pastoral, le pastoral du Brabant Wallon. Il y avait là une dizaine de pasteurs. Eh bien, eux tous ont dit la même chose. On constate que dans nos églises, les gens, ils viennent, ils partent. Ils sont là, ils ne sont pas là. On ne sait pas, on ne comprend pas. Mais si Jésus est mon Seigneur, si c'est Jésus qui est le Seigneur de mon Église, c'est pas Gaston, c'est pas Émile Carpe, c'est pas celui-là, et puis c'est pas celui-là, mais c'est le Seigneur Jésus. Parce que quand je fais défection comme ça, simplement comme ça, est-ce que j'honore mon Seigneur? Est-ce que je montre que je capitule devant Dieu? Est-ce que je montre que c'est lui qui a ma vie? Ma vie est entre ses mains. Matière à réflexion. Tu as trouvé Jésus sur le centre? Non. Bon. Donc, on va continuer à faire des recherches par la suite. Je termine et je conclue. Solus Christos. Christ seul. Jésus est le socle sur lequel notre salut est bâti. C'est le moyen de Dieu pour accomplir le plan du salut. Ah, pendant que je fais autre chose, toi tu trouves alors. Jésus est celui qui nous guide et qui nous conduit dans la vie. Les réformateurs ont compris que c'est le seul intermédiaire, c'est le seul Seigneur, c'est la seule voie du salut. Et qu'il est Dieu pleinement et qu'il est homme. Et la Bible le dit aussi, nous l'avons vu. Et peut-être qu'aujourd'hui nous sommes là et nous devons aussi comprendre que ce combat pour l'affirmation de Christ seul nous encourage et nous engage à connaître Dieu personnellement, à connaître Christ personnellement, à le mettre au centre de notre vie, à la fois en faisant en sorte que ce soit le Seigneur qui domine notre vie, mais en faisant en sorte que notre intimité avec lui soit profonde, de qualité. Et franchement, mes frères, si vous ne savez pas, dans la prédication, il est dit ceci, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas comment il faut faire ça, venez me trouver. Parce que la plupart des choses que je vous dis, je sais à peu près comment il faut faire. Je dis pas ça. Je n'aime pas dire des choses que je ne sais pas. Je ne vais pas vous mettre un fardeau sur vos têtes, des trucs que moi-même je ne sais même pas comment on fait. J'évite ça. J'évite ça par amour pour vous, par amour pour moi et par honnêteté pour le Seigneur. Donc, si c'est difficile, vous voulez faire ça concrètement. Tiens, j'ai découvert ceci ou cela. Tiens, j'ai telle lacune, j'ai telle difficulté. Comment je peux faire? Eh bien, venez me voir. On peut voir ensemble comment le faire. Première chose, connaître Dieu personnellement. Deuxième chose, mettre Jésus au centre de notre vie. Troisième chose, considérer Jésus comme le chef de l'Église. Et de cette façon-là, nous allons actualiser la réalité qu'aujourd'hui encore, Christ seul est Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Pour son œuvre dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à ce que cette parole soit agissante et vivante dans nos cœurs. Aide-nous à te placer, toi, Seigneur, dans nos vies et t'accorder la plus grande importance dans notre existence. Et qu'ainsi, tous nos paramètres, nos programmes, nos choix, nos engagements, que tout cela bouge et témoigne qu'encore aujourd'hui, toi seul es Seigneur à la gloire de Dieu. Amen.